Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. L'affaire Blanche Garneau, chapitre 1. La dernière marche. Jeudi 22 juillet 1920. Blanche Garneau était une jeune célibataire de 21 ans qui était reconnue pour sa ponctualité et sa fiabilité. En 1920, elle travaillait dans une boutique située au 796 rue Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. Dans cette boutique-là, elle vendait entre autres du thé, du café et de la porcelaine chinoise. Aujourd'hui, ce magasin, ben, ne le cherchez plus. La bâtisse, elle n'existe plus. J'ai pas réussi à savoir si elle avait été détruite par les flammes ou par un quelconque projet d'urbanisme, mais la bâtisse du 796 rue Saint-Vallier n'existe plus. Chaque matin, Blanche Garneau devait quitter le logement qu'elle partageait avec ses parents adoptifs, donc qui était situé au 59 rue François Ier, dans le quartier Saint-Zéphyrin de Stadacona, pour franchir un premier pont sur la rivière Saint-Charles avant de traverser le parc Victoria, qui dessinait la forme d'une presqu'île à cette époque-là. Il n'a plus la même forme aujourd'hui, il a été modifié dans les années 40, je crois. Après quelques minutes de marche, elle devait emprunter un autre pont pour lui qui lui donnait accès à l'avenue Parent. Et de là, il lui restait quelques petites rues à franchir avant d'atteindre Saint-Vallier. Si vous connaissez le secteur de Québec ou que vous y habitez, bien amusez-vous, je vous invite à y aller. Surtout durant l'été, là, les beaux mois des vacances s'en viennent. Je l'ai fait à pied, ça donne une bonne idée, c'est très intéressant de refaire le trajet, dans le fond, que j'appelle ici, dans le chapitre 1, la dernière marche, qui, en fait, bon, était le trajet qu'elle empruntait depuis un certain temps, qui était sa routine, et ce fut d'ailleurs son dernier trajet. Et il ne faut pas oublier aussi que ce jeudi-là, dans la boutique La Perfection, ça c'est une autre boutique qui était située au 91 rue Saint-Joseph, il y avait une autre jeune fille du même âge, donc 21 ans elle aussi, elle s'appelait Edesme Boucher. Elle terminait son corps de travail à 18 heures. Comme à l'habitude, elle s'est dirigée, bon, un coup que son corps de travail était terminé, elle s'est dirigée vers la boutique de thé pour y rejoindre son amie, qui terminait normalement à 18h30. Donc, on a Edesme Boucher qui termine à 18h. Elle ferme la boutique et elle a l'occasion, elle a 30 minutes, là, c'est amplement suffisant pour aller rejoindre son amie Blanche Garneau. Comme on le verra plus tard, on considère encore aujourd'hui que Edesme Boucher était pratiquement la seule amie, ou la seule amie proche en tout cas, de Blanche Garneau. Évidemment, on présume assez facilement, sans tomber dans les grandes spéculations, je pense que c'est assez juste de dire que les deux jeunes femmes, quand elles se sont retrouvées, ben, elles ont échangé quelques mots, tu sais, elles ont bavardé de choses et autres là, durant quelques minutes, là, le temps que Blanche ferme la boutique. Et pour sa part, la boutique où Blanche travaillait appartenait à un Jean Benjamin Rousseau, qui était un homme âgé de 66 ans et qui possédait d'autres boutiques du genre à travers la ville. Et une fois que la boutique a été verrouillée, eh bien Blanche et Edesme ont entrepris leur marche de fin de soirée, si on veut. Dans le sens qu'on va comprendre que c'est la marche que prenait Blanche pour rentrer chez elle, et Edesme acceptait de la suivre, au moins sur une certaine distance. Pour sa part, Edesme, pour en apprendre un petit peu plus à son sujet, elle habitait au 858 Saint-Vallier, c'est-à-dire dans la direction opposée. Donc, c'est pour ça qu'elle faisait un grand détour pour accepter d'accompagner sa copine, son amie. Depuis un certain temps, elle acceptait de faire ce détour pour l'accompagner jusqu'aux abords du parc Victoria. Elle la laissait, elle avait ensuite l'habitude de la laisser à l'intersection de l'avenue Parent, près du pont donnant accès au parc. Puis ensuite, à partir de là, Edesme Boucher retournait chez ses parents, c'est-à-dire l'électricien Adolphe Narcisse Boucher et Mila Parent. C'est à Montréal, d'ailleurs, que Edesme Boucher avait vu le jour le 29 août 1899, mais la famille avait fini, évidemment, par venir s'installer dans la vieille capitale. En quittant la boutique de thé vers 18h45, Blanche s'est assurée d'avoir verrouillé la porte, comme à l'habitude, en grande employée responsable, et elle a mis la clé dans son portefeuille. Tous ces petits détails-là, n'oubliez pas, seront assez importants à un moment ou l'autre de notre histoire. Ce soir-là, elle était vêtue d'une robe à carreaux noirs et blancs. Elle était coiffée d'un chapeau brun et champagne. Elle portait un paquet et elle portait aussi un paquet sous le bras. Les deux marcheuses n'avaient parcouru que quelques pas seulement avant que Mademoiselle Boucher constate l'attitude étrange de sa compagne. Donc, Blanche, ce soir-là, lui est apparue anormalement triste. Pourquoi? C'est une grande question à laquelle on aimerait répondre, évidemment. Edesme, étant donné qu'elle était respectueuse de sa vie privée, elle n'a pas osé lui demander pourquoi. Donc, elle a remarqué qu'elle était triste, mais malheureusement, elle n'a pas osé lui poser la question. Est-ce que Blanche lui aurait répondu? Peut-être que non. Ou peut-être que oui, elle aurait peut-être répondu quelque chose pour dévier la question, mais qui lui en aurait peut-être appris davantage. Malheureusement, on ne le saura jamais. Pour atteindre le parc, le fameux parc Victoria, Blanche et Edesme devaient déambuler devant plusieurs commerces, tels qu'à l'époque, là, il y a plusieurs commerces que j'ai retracés dans l'annuaire de Québec. C'est-à-dire, par exemple, la banque Hochelaga était située au 794 Saint-Vallier. Il y avait aussi le boucher Napoléon Bergeron au 792, le bijoutier Félix Gauthier, le docteur Arthur Leclerc. Il y avait aussi un débit de tabac, une quincaillerie au nom de Dion. À leur droite, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue, on retrouvait aussi la caisse d'économie Notre-Dame au 801 Saint-Vallier, les ferblantiers Rousseau au 795, un magasin de fruits et de bonbons appartenant à un dénommé Facchini. Il y avait aussi le photographe Falardeau, le notaire Pouliotte, une boutique de vêtements pour hommes et ainsi de suite. Cette portion de la rue Saint-Vallier était majoritairement, vous l'aurez compris, une rue plutôt commerciale. Après quelques minutes de marche, les deux copines ont tourné à gauche, c'est-à-dire sur la rue Sainte-Catherine. Et à cet endroit-là, il y a une automobile qui est passée près d'elle sans s'arrêter. Sur le siège passager, Edesme a tout de suite reconnu un dénommé Martin Griffin. Au lieu de dire Martin, on va s'habituer parce qu'il va revenir, ce personnage-là, à plusieurs reprises dans notre histoire. Donc, elle a reconnu Martin Griffin. Qui est-il? On va le découvrir assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Et l'instant d'après, quand Edesme s'est retournée, elle a vu que Blanche Garneau s'était soudainement retirée du trottoir comme pour éviter les regards. Donc, elle s'est comme repoussée par rapport à la rue, donc par rapport à la voiture, comme pour se cacher un peu de Martin Griffin. Et bon, tout ça, évidemment, on l'imagine, s'est passé assez rapidement. Et la voiture s'est éloignée c'est-à-dire avant de s'arrêter, de s'immobiliser devant le 76 rue Saint-Ambroise, c'est-à-dire que c'est devant l'appartement où habitaient Martin Griffin et sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs. Celui-ci, d'ailleurs, les deux jeunes femmes l'ont vu descendre de l'auto et disparaître dans la cour. Évidemment, toute cette description, la description que je vous donne est basée sur tous les témoignages qui ont été dits sous serment plus tard, donc lors de l'enquête du coroner, par exemple, le procès et tout ça. Alors, la reconstitution est faite là-dessus. Je n'ai rien inventé, mais rien du tout. Et si Edesme n'avait pas osé demander pourquoi sa copine était triste ce soir-là, au moins, elle lui a demandé pourquoi elle avait cherché à éviter la voiture dans laquelle se trouvait Martin Griffin. Et selon elle, ce qu'elle dira plus tard, c'est que Blanche lui aurait répondu qu'elle n'avait tout simplement pas envie que le jeune homme lui offre de la reconduire chez elle. Donc, c'est une belle façon, je pense. Je ne vais pas influencer votre jugement parce que vous me direz à la toute fin ce que vous pensez de cette enquête-là. Mais je pense que c'est une belle façon d'éviter quelqu'un parce qu'on ne veut pas le voir, si on veut pas, on n'est pas à l'aise du moins. Donc, est-ce que c'est peut-être le mot que je cherchais depuis tant d'années? Mais c'est peut-être ça. Peut-être que Blanche Garneau ne se sentait pas à l'aise en compagnie de Martin Griffin. Et pourtant, Edesme, de son côté, savait très bien que Blanche avait récemment fait la rencontre de Griffin lors d'un pique-nique qui avait été organisé à Sainte-Anne-de-Beaubré. Pour être plus précis, c'était le dimanche 11 juillet, donc 11 jours plus tôt seulement. Donc, cette connaissance-là de Martin Griffin, c'était tout récent. Et il y avait aussi cette coïncidence, si on veut, qu'il habitait dans le même quartier où Blanche travaillait. En tout cas, il habitait assez près. Et pour mon doux, quelques instants après être passé devant l'appartement où habitait Martin Griffin, on entre dans le parc Victoria. Pour l'avoir fait à pied là, quelques années, c'est assez évident. Donc, voyez-vous, il y a certains points qui se mettent en place tranquillement. Je n'en dirai pas plus. Bref, de ce qu'on doit retenir de ça, c'est que la rencontre avec Martin Griffin et Blanche Garneau était quand même assez récente. Donc, ça pourrait expliquer le malaise de Blanche Garneau, qui était quand même assez réservée. Et n'oublions pas qu'on est en 1920, donc si elle avait un intérêt particulier pour lui, eh bien, ça se fait pas comme aujourd'hui. On ne couchait pas le premier soir nécessairement, même si, oui, ça se faisait quand même à cette époque-là. Mais la grande majorité fonctionnait à l'inverse d'aujourd'hui. Donc, on se méfiait d'abord longtemps. La confiance a été longue à gagner. Donc, est-ce que tout ça venait jouer un rôle? Je ne sais pas. Je ne veux pas vous brouiller les pistes. Mais bref, on a le droit de commencer à se questionner, même avant le crime, parce que le crime n'a pas encore été commis. Donc, Edesme Boucher et Blanche Garneau faisaient partie de la chorale Gounod, qu'on appelait à l'époque, de l'église Saint-Sauveur. Et tout ça pour dire que le 11 juillet, lors de la rencontre, là, Blanche Garneau avait pris le train en compagnie de Jules Garneau, son oncle, pour assister à un petit dîner là, qui était organisé à Beaupré. C'est là qu'elle avait rencontré Martin Griffin, qui était un jeune homme de 20 ans. Donc, il était d'une année plus jeune qu'elle. Et de ce qu'on sait de ce pique-nique-là aussi, c'est que Blanche Garneau avait utilisé son appareil photo pour tirer quelques clichés en sa compagnie. Et tous deux s'étaient promis à ce moment-là de se revoir pour partager les photos. Donc, ça veut dire qu'au moins, le 11 juillet, ben Blanche Garneau n'avait pas peur de Martin Griffin parce qu'elle avait manifesté le souhait de le revoir et surtout d'échanger des photos. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que le 11 juillet, sa compagnie semblait bonne et le 22 juillet, elle cherche à l'éviter. Alors, qu'est-ce qui s'était passé entre ces deux dates? Ensuite, Blanche et Edesme ont repris leur marche, donc elles ont continué leur trajet, si on veut. Elles ont passé à l'intersection où elles devaient se laisser, c'est-à-dire au coin Saint-Ambroise, Bédard et Parent. C'est justement sur ce coin-là qu'habitait Martin Griffin. Et à ce moment-là, il était 19h. J'ouvre une parenthèse aussi sur les heures parce que les heures sont vraiment pas claires à cette époque-là, donc il doit y avoir une confusion à quelque part que je n'ai pas réussi à élucider vraiment. On parle de 19h, mais j'ai l'impression que c'était au coucher du soleil, donc on est en juillet. On est peut-être plus vers 8h ou 9h, parce que là, on marchait souvent à l'heure avancée, l'heure reculée, puis c'était pas toujours précisé dans les transcriptions sténographiques du dossier judiciaire, donc ça pourrait porter à confusion, mais j'ai décidé de prendre une heure ici qui était mentionnée, et j'ai essayé toujours de prendre la même et non pas valser entre leur avancée, leur reculer, et ci et ça. Mais bref, juste garder à l'esprit qu'il y a une marge d'erreur possible concernant les heures. Donc, il était 19h quand elles ont échangé leurs dernières paroles. Puis là, elles se sont dit au revoir. Et de ce qu'on sait, ce que Edesme a dit plus tard, elle a observé, durant quelques secondes à peine, elle a observé Blanche qui s'éloignait en direction du pont. Donc, en direction juste l'autre côté du pont, c'était le parc Victoria. Elle l'a observé durant quelques secondes et ensuite, elle a tourné les talons pour rentrer chez elle. Et malheureusement, c'était la dernière fois qu'elle voyait son amie vivante. De l'autre côté du pont parent, c'est l'arrivée d'un autre personnage, Édouard Morancy, qui avait 68 ans. Et lui, M. Morancy, travaillait comme gardien dans le parc Victoria. Il avait l'habitude de patrouiller les environs et de regarder passer les mêmes personnes jour après jour après jour. Donc, il venait habitué de voir toujours, comme on dit à bon québécois, les mêmes faces. Quand on est gardien de sécurité et qu'on est attitré à un même endroit et qu'on est peu mobile, c'est souvent ce qui arrive. On finit par revoir les mêmes visages et peut-être même ça peut servir à reconnaître des premiers suspects. On ne sait jamais. Mais bon, bref, lui, sa job, c'était de maintenir l'ordre. Donc, pour lui, pour M. Morancy, le visage de Blanche Garneau faisait justement partie de ces personnes familières qui passaient près de lui chaque jour, en tout cas, du moins depuis un certain temps. Il ignorait son nom, par contre, c'est ce qu'on apprendra plus tard, mais la jeune vendeuse s'était suffisamment démarquée du lot pour que Morancy se souvienne plus tard quand ce jeudi soir, elle était passée devant lui entre 18h30 et 19h. Je sais que la marge d'erreur, c'est quand même une demi-heure, mais c'est logique aussi, parce qu'elle fermait sa boutique à 18h30, et elle avait laissé son ami Edesme à 19h, c'est ce qu'on a dit dans la preuve, qui a été déposée plus tard. Donc, c'est logique qu'il l'ait vu vers 19h, peut-être plus vers 19h ou un petit peu après. Et lui, quand que M. Morancy l'a vu, il dira plus tard que Blanche déambulait entre la serre et le restaurant du parc avant de se diriger vers une voie ferrée qui longeait la rivière Saint-Charles. Et pour lui aussi, c'était la dernière fois qu'il la voyait vivante. Donc c'est ici que commence, je pense, la première intrigue réelle de cette histoire-là. Avant même que le crime soit commis, il y a une certaine atmosphère, je pense, en tout cas quand on lit les transcriptions, certaine atmosphère de sombre et noir là, qui s'installe ici. C'est-à-dire que c'est au moment où M. Morancy, aussitôt qu'il a quitté Blanche du regard, il a détourné la tête et ses yeux sont tombés sur une silhouette, la silhouette d'un jeune homme qui passait par là, entre la serre et le restaurant, c'est-à-dire le même trajet que Blanche venait d'emprunter, donc à peine quelques secondes, le jeune homme passait dans ces mêmes traces et il semblait conserver par contre une certaine distance que M. Morancy estimera plus tard à 80 pieds. Donc il marchait à environ 80 pieds derrière Blanche Garneau comme s'il la suivait. Dans le fond, c'est ça que ça suggère. Et selon la description que fera Morancy plus tard, l'individu en question était vêtu en noir et portait un chapeau mou. Et sa démarche était voûtée. Je prends le mot exact de M. Morancy. Sa démarche était voûtée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le laisse à votre compréhension parce qu'il va y avoir plusieurs interprétations de ça plus tard. Mais bref, il a quand même remarqué quelque chose parce que pour donner, c'est quand même pas très détaillé. J'en conviens, mais pour ces quelques détails-là, ça prouve au moins que le personnage n'a pas été inventé. Il a vraiment vu quelqu'un qui suivait Blanche Garneau ce soir-là. Et ensuite, on a un autre personnage qui rentre en ligne de compte, qui s'appelait Joseph Plamondon. Lui avait 34 ans. Il était garde-moteur pour la compagnie Québec Railway. Ça, c'était la compagnie qui gérait les tramways à l'époque. Et lui, il roulait tranquillement, en tout cas, c'est ce qu'il viendra nous dire plus tard. Il roulait tranquillement à bord de son tramway vers 19h15 ou 19h20. Donc, remarquez qu'on est encore dans l'ordre chronologique. Donc, c'est après que M. Morancy ait vu le suspect suivre Blanche Garneau. Donc, là, on est 15 minutes ou 20 minutes après cette dernière description-là. Et en direction du quartier Stadacona, Plamondon, lui, il a aperçu sur les rails, devant lui, donc devant son tramway, il a remarqué la présence de deux hommes en compagnie d'une jeune femme. Tandis que son véhicule électrifié progressait lentement, donc il roulait vraiment lentement ce soir-là, il a constaté que la femme portait un petit paquet sous le bras gauche. OK? Vous vous souvenez tantôt que Blanche Garneau a quitté sa boutique avec un paquet sous le bras. Et durant un bref instant, lui, c'est ce qu'il a dit plus tard, il a croisé le regard de la jeune femme. C'est-à-dire, on imagine, là, d'après sa description, que son tramway a continué d'avancer tranquillement et que la femme, accompagnée par les deux hommes, se sont tassés sur le côté des rails. Et à ce moment-là, en passant au côté d'eux, le regard de Plamondon a croisé celui de la jeune femme. Est-ce que c'est la dernière? Est-ce que ça fait de lui la dernière personne qui a croisé le regard de Blanche Garneau avant qu'elle soit assassinée? Possible. On ne sait pas. Mais gardez à l'esprit que c'est possible aussi que ce ne soit pas Blanche Garneau. On y reviendra. Quant aux deux hommes, selon lui, il y en a un qui était visiblement plus grand que l'autre. Et une fois que son tramway est arrivé à leur hauteur, le plus grand s'est retourné légèrement pour regarder Plamondon. Qui se souviendra plus tard, lui, que celui-ci portait un chapeau mou foncé. Et pour le plus petit, il va le décrire comme étant coiffé d'une casquette. Et puisque le trio bavardait ensemble sans éveiller le moindre doute, donc ça semblait tout à fait normal, Plamondon a poursuivi son trajet tout simplement. Donc c'est à se demander pourquoi il avait remarqué ça, si c'était normal. C'est seulement quelques jours plus tard qu'il sera en mesure de comprendre que la justice ferait de lui un témoin de l'une des plus célèbres affaires criminelles du 20e siècle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on garde un bémol sur l'heure, mais selon les journaux de l'époque, le soleil s'est couché ce soir-là à 19h30, donc j'ai l'impression qu'il faut rajouter une heure à ça, parce que nous sommes le 22 juillet quand même. Et après que son mari a été rentré de son travail au terrain de l'exposition, Émilie Samson-Baribeau a commencé à s'inquiéter. Mais qui était Émilie Samson-Baribeau? Bien, c'était la mère adoptive de Blanche Garneau. C'est elle qui s'en occupait, même si Blanche avait 21 ans. C'est elle qui s'en occupait quand même depuis plusieurs années. Et on aura deviné que c'est ce couple-là, le couple des Baribeau, qui habitait dans le quartier Stadacona. Donc, 19h30, normalement, Blanche était rentrée à la maison, puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à s'inquiéter, parce que Blanche était, on va dire comme on dit en bon québécois, elle était timée comme une horloge, donc elle était fiable, elle faisait pas d'écart de conduite et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle a commencé à s'inquiéter immédiatement. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune recherche qui a été faite ce soir-là. Pourquoi? Parce que Émilie s'est souvenue que Blanche lui avait parlé de la possibilité qu'elle aille passer la nuit chez sa tante Émerilda Garneau, l'épouse de Hector Delisle. On va mieux les connaître un petit peu plus tard aussi. Retenez ça, ce nom-là, Hector Delisle. Afin d'aller lui donner un coup de main dans l'installation de papier peint dans l'appartement, donc. Alors, je pense qu'Émilie a arrêté de s'inquiéter. En pensant à ça, elle a dû se dire, Blanche Garneau, au lieu de rentrer à la maison, et elle est allée coucher chez sa tante pour pouvoir l'aider le lendemain matin avec son fameux papier peint. Et souvenez-vous que c'est pas tous les foyers qui avaient le téléphone à cette époque-là. Et encore moins le téléphone cellulaire. Donc, elle ne pouvait pas appeler ou lui envoyer un texto, dire « Maman, je rentre pas ce soir, t'inquiète pas. » Donc, voilà. Fallait souvent déduire, penser par soi-même. C'est ce qui laissait place aussi aux personnes les plus anxieuses à développer des idées très, très, très anxieuses. à penser au pire, dans le fond, et bon, à certaines autres personnes, à se dire, bah là, c'est pas grave, elle va se débrouiller, elle connaît du monde, bref, c'est pas la première fois qu'elle vient pas coucher. Alors, c'est sur cette pensée que se termine le premier chapitre. C'est-à-dire que à partir de cet instant, Blanche Garneau ne devait plus jamais être vue vivante.